si vous voulez, on va aller dans Luc au chapitre 2, les versets 8 à 20. Luc chapitre 2, les versets 8 à 20. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Excusez-moi. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « La naissance de Jésus, un insondable émerveillement ». On va regarder, le texte peut se diviser en trois parties. La naissance de Jésus révélée, les versets 8 à 12. La naissance de Jésus révérée, dans le sens que, en prenant conscience de qui ils vont faire, ils vont adorer, versets 13 et 14. Et la naissance de Jésus réalisée, dans les versets 15 à 20. Sans aucun doute, la naissance de Jésus est un des plus grands événements de toute l'histoire de l'humanité. Des siècles avant la naissance de Jésus, la Bible cite les paroles des prophètes d'Israël qui parlent de sa venue. Ça, c'est intéressant de noter ça. L'Ancien Testament, qui a été rédigé sur une période de 15 siècles, 1500 ans, par une quarantaine d'auteurs différents, contient plus de 300 prophéties sur la venue de Jésus. Ça serait intéressant, si on avait le temps, là, d'aller développer ça, que sur 1500 ans, 40 personnes ont parlé de la venue de Jésus, et toutes ces choses-là se sont accomplies. C'est quelque chose de glorieux. Là. On voit que les Écritures, c'est vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, chaque détail de ces 300 prophéties-là se sont réalisés, y compris, bien entendu, sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, sa mort et sa résurrection. Bien entendu, on pourrait parler de beaucoup d'autres aspects, mais c'est les principaux points. La vie de Jésus, ses miracles, les paroles qu'il a prononcées, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension au ciel, tout indique que Jésus n'était pas un simple homme, mais qu'il était bien plus qu'un homme. Jésus a proclamé, je vais vous donner trois passages des Écritures où il parle de lui-même, et c'est Jésus qui parle. « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est pas une petite affirmation. C'est là-dessus que les Juifs voulaient comme le lapider, parce que c'était vraiment une affirmation de sa divinité. On a un autre passage qui est dans Jean 14, verset 9, ça dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et une troisième, Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est drôle pareil parce qu'en ces temps de volonté d'unité des religions mondiales, il y en a plusieurs qui enseignent qu'on peut aller au ciel en dehors de Jésus. Pourtant ici, c'est extrêmement clair. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors la centralité de Jésus-Christ dans notre vie chrétienne et dans les Écritures aussi. Alors c'est vraiment le fait le plus étonnant, le plus glorieux et le plus merveilleux de toute l'histoire des hommes. Si on se met à regarder ces passages-là, qu'on étudie à chaque année, lors de la période de Noël, bien sûr, ça nous remplit littéralement d'émerveillement, et ça nous conduit, inévitablement, vers l'adoration et la louange la plus exaltée. Alors, implorons le Seigneur de nous ouvrir l'intelligence à sa contemplation. Donc, on va reprendre les trois idées. La première, on avait dit que c'était la naissance de Jésus révélée, dans les versets 8 à 12. Et il y a trois choses qui sont révélées dans ce passage-là, trois angles différents dont on fait référence dans le passage 8 à 12. La solennité, versets 8 et 9. Versets 10 à 11, qu'est-ce que ça signifie? Et la troisième idée, c'est vraiment que ça correspond à ce que les Écritures déclaraient de lui. Donc, on va reprendre les versets 8 et 9.
De quel chapitre?
Excuse-moi.
20, chapitre 20?
Non, chapitre 2. Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Donc, les versets 8 à 9, ça disait, on veut voir tout le côté solennel qu'il y a là-dedans. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je pense qu'une chose qu'il faut rappeler quand on lit ce passage-là, pourquoi le Seigneur a choisi de se révéler à des bergers? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les bergers, c'était la classe sociale la plus pauvre, la plus méprisée, je comprends jusqu'à un certain point. Et le Seigneur ne se révèle pas aux dirigeants religieux de l'époque, il se révèle à la classe sociale la plus basse de l'époque, et ça, c'est vraiment significatif. Mais pourquoi bergers? Il faut se souvenir aussi que les Écritures parlent de Jésus comme étant le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 11, ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Quand on regarde les Écritures à partir du début de la Genèse, il y a plusieurs personnages bibliques qui ont été des bergers. Je peux en nommer quelques-uns. Abel, Jacob, Moïse, David et d'autres. Alors, c'était vraiment des personnes avec le statut social très bas de l'époque. Alors, c'est vraiment... Quand on regarde les pharisiens et les sadducéens, ils étaient froids et secs, comme la poussière, on pourrait dire. Il y avait les esséniens, à l'époque, c'était des ascétiques et des séparatistes. Il y avait les Hérodiens, qui étaient vraiment ceux qui s'occupaient de la religion et dans une perspective politique. Et tu avais les puissants, qui étaient des violents et des idolâtres. À l'époque, c'était vraiment ça. Alors, l'Éternel a choisi de se révéler à des hommes simples alors qu'ils s'acquittaient de leurs devoirs quotidiens. Il n'a pas choisi un moment particulier. Il est en train de garder les troupeaux dans le champ la nuit. Et le Seigneur vient intervenir, et j'imagine que si vous êtes dans un champ en train de garder des brebis, et qu'on parle de la gloire du Seigneur, on peut avoir de la difficulté à s'imaginer qu'est-ce que c'est la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est l'ensemble de ses attributs qui sont révélés simultanément. Pas pour rien que sont morts de peur. Il était saisi d'une grande frayeur. J'imagine que si on est dans le champ la nuit, puis à un moment donné, la gloire du Seigneur se révèle à nous, mais avec une intensité là, qu'on n'a jamais vue, j'imagine que ça doit faire un petit effet dans notre cœur, puis dans notre tête aussi, et ça provoque la peur. Parce que la gloire du Seigneur, pas pour rien que le Seigneur dit qu'on ne peut pas se présenter devant lui et ne pas mourir, à moins que ce soit une grâce que lui décide de nous l'accorder. Alors, c'est quelque chose qui était extraordinaire pour ces hommes-là de connaître ces choses-là. Alors, ici, les bergers connaissent une expérience des plus exaltantes. Exaltantes, ça veut dire les plus hautes possibles. Ça dit, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il faut s'arrêter un peu pour essayer de s'imaginer si on serait dans un champ en train de garder des brebis, puis que soudainement, il arrive un événement tel que la gloire du Seigneur... Mais on a tellement peu d'informations sur... les Écritures sont remplies de ce que Jésus est, de ce que Dieu est, mais qu'on a vraiment peine à imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent avoir connu. Ça doit être quelque chose qui doit les avoir saisis de peur et en même temps d'admiration, parce que ça doit être quelque chose qui doit être vraiment une expérience à vivre. Alors, la gloire du Seigneur, quand on regarde dans les dictionnaires bibliques ou dans les commentateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est le rayonnement qui se dégage de la personne de Dieu et c'est un éclat insoutenable de sa majesté. Parce que toutes ces perfections infinies de ses attributs qui sont insondables, par définition, un attribut de Dieu, peu importe laquelle qu'on prend, que ce soit la justice, l'amour, la miséricorde, c'est que un jour, on va rentrer dans le ciel et on n'aura jamais épuisé un de ses attributs. Moi, souvent, dans les Écritures, je l'ai compté aux alentours de 25. Là. Ça veut dire que c'est impossible que vous puissiez aller au fond de ce que Dieu est dans son être. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. La majesté de Dieu, ses perfections infinies. Et là, on peut en prendre plusieurs. L'omniprésence. Le fait que Dieu est ici ce matin, puis si on irait dans l'autre église, l'autre bord, il est là. Si on irait dans une église aux Indes, il est là. Si on irait dans une église en Amérique du Sud, il est là. L'omniprésent, il est présent partout. On oublie souvent ça dans nos propres vies. Dans le jour, souvent, on va avoir un comportement. On aurait un comportement différent si le Seigneur serait présent au milieu de nous. Disons dans la journée, là, on est au bureau. On est à la shop, peu importe ce que vous êtes. Là. Puis là, vous prendriez conscience d'un coup sec que le Seigneur est là. D'après vous autres, ça changerait-tu quelque chose dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler? Bien sûr. Pourtant, il est toujours là. Mais c'est que nous autres, on fait ça. Le lien, on l'oublie facilement, même si on le sait, les Écritures nous l'enseignent. L'omnipotence. Moi, l'omnipotence, j'aime bien prendre l'exemple de ce que ça dit dans les Écritures par rapport à la puissance de l'omnipotence, ça veut dire la toute-puissance de Dieu. Capable de rouler l'univers, pour être capable d'imaginer et d'apprécier ce qu'on est en train de dire pour l'omnipotence. Faudrait qu'on ait des notions d'astronomie pour savoir jusqu'à quel point, même avec la science moderne, je pense qu'on ne sait même pas encore la grandeur de l'univers. Et lui, il est capable de prendre ça puis de rouler ça comme un manteau. Moi, si je suis chez nous, je mets un manteau sur le lit, j'ai-tu de la misère à rouler ça? Pas de misère. Imaginez-vous, le poids de l'univers, c'est inimaginable. Il est capable de rouler ça comme s'il s'agissait d'un manteau. La puissance du Seigneur n'a pas de limite. L'omniscience de Dieu, Dieu sait tout. Depuis le début jusqu'à la fin, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a tout décrété. Tout ce qui nous arrive dans nos vies, il le sait à la perfection. Des fois, quand on prie, on aurait tendance à aller devant le Seigneur pour l'informer. Moi, je l'ai vu souvent dans des prières. Souvent, j'étais dans une église, puis des fois, il nous divisait par petits groupes, là, des gens. Il informait le Seigneur. C'était vraiment drôle. Quelqu'un qui n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait, là, c'est vraiment ridicule. Il est en train d'informer le Seigneur de l'univers d'une chose qui se passe sur la terre. Tu ne peux pas rien apprendre au Seigneur. L'omniscience, ça veut dire qu'il sait absolument toutes choses pour la simple et bonne raison qu'on l'a vu un petit peu dans les prédications précédentes, c'est qu'il a décrété toutes choses. Toutes choses qui se passent sur la terre aujourd'hui, à l'heure présente, le Seigneur savait exactement qui serait ici ce matin, à quel endroit on serait assis, dans quel état d'esprit on serait pour recevoir sa parole. L'omniscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'immuabilité, Dieu ne change pas. Sa sainteté, pas pour rien qu'on lit, je pense que c'est dans Ésaïe 6, où il y a des anges qui, devant Dieu, ils se mettent les deux ailes, ils se cachent la vue, ils se cachent les pieds, ils se cachent toute la personne. Devant Dieu, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose de tellement éblouissant que c'est à peine imaginable. Et là, on pourrait aller dans les autres attributs de Dieu, sa bonté, son amour, sa sagesse, sa grâce, sa vérité, sa vie, son éternité, sa fidélité, sa miséricorde. Et là, on pourrait prendre chacun des attributs puis dire plein de choses qu'on pourrait développer avec les Écritures. Bien sûr, une telle expérience qui se vit en pleine nuit, dans le champ, un groupe de bergers ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça nous dit, les mots même, une grande frayeur s'empara d'eux. Et si ça nous aurait arrivé à nous autres, c'est sûr que la même chose serait arrivée. Mais, après avoir vécu l'expérience, fallait qu'ils comprennent, dans le verset 10 et 11, nous dit, qu'est-ce que cela signifiait? Verset 10 et 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, c'est pas juste qu'il voyait quelque chose d'extraordinaire, mais le Seigneur leur dit, pourquoi que ça arrive? Quel est le sens de tout ça? Alors, ce resplendissement de gloire n'a pour but que de préparer le chemin à une nouvelle extraordinaire, la naissance du Messie depuis si longtemps prophétisé. Allons en voir un passage dans l'Ancien Testament qui nous parle du Messie qui est annoncé. Dans Ésaïe 61, ceux qui ont leur Bible, vous voyez les. Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 à 3. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'an de la bienveillance de l'Éternel, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu de l'esprit d'accablement, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice et la plante de l'Éternel pour s'y glorifier. Voyez-vous, déjà en Ésaïe 61, on parlait déjà des aspects de l'arrivée du Christ, de sa naissance dans le monde. Donc, la bonne nouvelle est signifiée aux bergers. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont mentionnées là-dedans. Le Messie. Le Messie est né. Pour les Juifs de l'époque, on sait qu'ils se sont fourvoyés. même s'ils ont eu des signes, même s'ils ont eu des signes évidents que c'était la naissance du Messie, c'est comme, on dirait qu'ils l'ont ignoré volontairement, parce que le Seigneur, dans la manière dont il se présentait, ne correspondait pas à leur désir du Messie. Pour eux, ils étaient envahis par les Romains, ils auraient voulu que le Seigneur soit un militaire, qu'ils disent « Ok, c'est assez, on met deux pieds à terre, on sort ces Romains-là d'ici. » Alors que c'était pas ça du tout, c'était pas une libération militaire, une libération civile, une libération de choses terrestres, c'était une libération de nos péchés. Alors c'est tout à fait ça. Le Messie est né, et ici on nous dit qu'il est né, mais puis là maintenant, dans le passage qu'on étudie, il est plus prophétisé, il est plus promis, mais il est bien réel et visible. Comme on va le voir, ils vont aller voir qu'est-ce qui est arrivé avec... Alors, dans Michée, chapitre 5, verset 2, dans l'Ancien Testament. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers du Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, il est le Messie, mais aussi, il est le Sauveur, parce que le nom de Jésus veut dire Sauveur. Ça vient de Jéhoshua, qui veut dire l'Éternel est salut. Donc, Jésus, en hébreu, c'est Jéhoshua. Jéhoshua, ça veut dire l'Éternel est salut. Donc, la délivrance amenée par Jésus est de nature spirituelle et non pas temporelle et militaire. Il délivre de la mort éternelle dans l'enfer. Ça, là, la journée qu'un être humain ouvre son intelligence et que le Seigneur lui fasse grâce de comprendre, ne serait-ce qu'un peu, ce qu'il est en train de dire, l'enfer, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne plus prêcher dans les églises. On a peur de froisser les gens. On a peur d'être accusé de vouloir faire peur aux gens. Pourtant, moi, j'ai une liste chez nous à la maison où c'est Jésus lui-même qui parle dans les évangiles et Jésus parle plus de l'enfer que du ciel. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est délivré de cet endroit-là, qui est un endroit terrible. Et c'est parce qu'on n'est pas conscient, on est là. « Oh, ma vie, lui est sauvé, moi je suis sauvé, nos enfants sont sauvés. » Si le Seigneur t'ouvrait l'intelligence et te ferait voir de quoi tu es sauvé et la durée que ça aurait eu si lui n'était pas intervenu, tu tomberais en pleine face en adoration, c'est sûr et certain. Parce qu'on aurait tellement peur. Si le Seigneur nous ouvrait l'intelligence dans la compréhension de cela, il est venu pour nous sauver de l'enfer. Il est venu prendre la place que nous aurions dû avoir, il a pris notre place. C'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et ça l'utilise, le mot, le Christ. Tu sais, on dit Jésus-Christ. Christ veut dire quoi? Oin. Qu'est-ce qui est oin? Le prophète est oin. Le sacrificateur est oin. Et le roi est oint. Et Jésus est allé trois. Donc, le Christ, c'est le Messie dans ses trois offices de roi, de prophète et aussi de sacrificateur. L'onction d'huile qu'on faisait à ces trois offices-là dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'était pour le Christ? C'était le Saint-Esprit. L'onction d'huile, il n'a pas reçu c'était la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, on va aller regarder... les trois offices, allez regarder quelques versets qui nous parlent des trois offices et comment ces offices-là se sont accomplis en Jésus-Christ. Prenons Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 18. Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 18. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je vous commanderai. » Bien sûr, un matin, on ne peut pas regarder l'ensemble des Écritures de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui nous parle de l'office de prophète de Jésus-Christ, parce qu'on en aurait pour la journée. Mais il reste que faut prendre conscience que le nom de Jésus veut dire « Éternel sauve », et il faut prendre conscience aussi du mot « Christ » qui veut dire « prophète oint, sacrificateur oint, roi oint ». Très, très intéressant. Un autre passage par rapport aux prophètes, dans Actes 3, versets 22-24, ça dit « Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. » Un autre passage, le dernier dans le Nouveau Testament, Jean 6, verset 14. « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc, déjà, ceux qui avaient les yeux ouverts comprenaient que quand à l'arrivée de Jésus, c'était le prophète promis dans l'Ancien Testament. Maintenant, il était aussi le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'offrait lui-même comme victime. Autrement dit, Jésus est sacrificateur, mais ce qu'il offre à Dieu, c'est sa propre personne. Alors, il est le parfait sacrifice lui-même. Il est le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Il est aussi, on a tendance à l'oublier quand on fait la description de ce que c'est un souverain sacrificateur, c'était l'intercesseur parfait. Il est bien sûr, durant qu'il était sur la terre, il l'a dit, des fois que Pierre a fait une bêtise, « J'ai intercédé pour toi. » Mais il faut prendre conscience qu'au ciel, aujourd'hui, chacun des enfants de Dieu, qu'il soit dans l'église de Sherbrooke ou dans l'église de Montréal, peu importe, il intercède encore pour nous. Il connaît notre misère, il connaît notre faiblesse, il connaît et il intercède auprès du Père pour nous. Donc, il est, et il ne faut pas oublier une chose aussi. Quand on voit dans l'Ancien Testament, on voit qu'est-ce que le souverain sacrificateur rentrait dans le et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire ses et après, quand il sortait, qu'est-ce qu'il faisait? Il bénissait le peuple. Et Jésus, après qu'il est venu, après qu'il a eu sa résurrection, il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il intercède pour nous et il bénit son peuple. Ça, pour moi, l'obéissance qu'on appelle pénéale et préceptive, de façon substitutive, je reviens pour l'expliquer, et vicariale comme nouvel Adam et représentant des élus. C'est tellement fondamental dans la doctrine que si vous avez compris ça, vous avez compris un grand, grand, grand bout de théologie. L'obéissance pénale, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que nous, comme pécheurs, si le Seigneur n'était pas intervenu dans nos vies par sa grâce, on décédait et on s'en allait pour l'éternité en enfer. Donc, pour pas qu'on y aille, il fallait que quelqu'un se substitue à nous et accepte de prendre la punition qui aurait dû être la nôtre, qu'il la prenne à notre place et qu'il le fasse volontairement. C'est ce qu'on appelle l'obéissance pénale. Donc, Christ, personne ne lui a imposé la croix, personne ne lui a imposé qu'est-ce qu'il a vécu sur la croix. C'est quand il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je me souviens d'avoir déjà préparé un sermon là-dessus. On disait que Luther avait déjà préparé un sermon là-dessus. Et à un moment donné, il avait comme figé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a été comme... Il essayait de comprendre ce qui se passait. Et il avait bien de la misère à prêcher sur ce texte-là parce qu'il trouvait que c'était d'une profondeur infini. Alors, l'obéissance pénale, c'est vraiment le fait que Christ a accepté de subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place. Et ça, sur la croix, qu'est-ce qu'il a subi? Des fois, on est porté à voir juste le côté matériel, le côté temporel, que sur la croix, ça s'est mis, qu'on a percé, toutes les souffrances qu'il a eues, la couronne d'épines, les fouettages et tout ça, on est porté à voir ce côté. Et c'est bien correct qu'on le voit. Si on ne le verra pas, on fera des misérables. Mais c'est bien plus que ça. La souffrance qu'il a prise, c'est bien plus que le côté physique de la croix et tout ça, et ce qui s'est passé avant la croix. C'est vraiment d'accepter de subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place. Ça, là, quand on comprend ça, là, vraiment, on a tout compris, ben, du moins, peut-être pas dans sa profondeur infinie, mais du moins, on a compris les principes essentiels. Puis, l'obéissance préceptive. Préceptive, ça veut dire quoi, ça? Des préceptes. Dieu voulait que pour vivre en sa présence, nous ayons accompli le décalogue, les 10 commandements, à la perfection, sans avoir manqué une seule fois, ni dans vos pensées, ni dans vos paroles, ni dans vos actions, et ni dans vos omissions. C'était extrêmement exigeant. Et ça, y a-t-il quelqu'un d'entre nous qui a fait ça? Qu'il a pris le décalogue, puis il l'a obéi à la perfection dans toutes ses dimensions, et toute sa vie, ça a manqué une seule fois. Aucun homme a fait ça. Jésus a accepté de se substituer à nous et d'accomplir, lui, parce que sa vie était une vie de parfaite obéissance au Père, non seulement le décalogue, mais de parfaite obéissance. Et la Bible nous dit que lorsque la grâce nous est accordée, non seulement nos péchés sont pardonnés parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour, mais que aussi il y a quelqu'un qui a accompli les exigences de Dieu envers nous. Quand on saisit ça, autrement dit, si le Seigneur ne m'accordait pas sa grâce, je m'en allais en enfer pour l'éternité. À cause de lui, je n'y vais pas. Mais s'il avait fait juste ça, est-ce que c'était suffisant pour qu'on rentre au ciel? Non! Il fallait aussi que tu aies accompli à la perfection ce qu'on appelle l'obéissance préceptive. Il fallait que tu aies obéi à Dieu de façon parfaite toute ta vie sans avoir manqué une seule fois. Personne ne pouvait rentrer au ciel. À cause de Jésus. Lui, il l'a fait, et la grâce, c'est quand on la reçoit, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais les exigences de Dieu sont rencontrées. Et c'est tellement merveilleux, parce que là, on ne se voit plus comme avant. On voit que le Seigneur a subi le châtiment que nous aurions dû subir, et en plus, il a accompli à la perfection ce que Dieu exigeait pour vivre en sa présence. Quand on comprend ça, là, ben c'est parce que on n'a pas de misère à croire au salut qui ne se perd pas. Parce que si Christ a subi sur la croix le châtiment qui aurait dû être le mien, il le prend à ma place, et si Christ a voulu sur la terre obéir à la perfection de son Père, et que lors de la régénération, toutes ces choses-là nous sont mises sur notre compte, autrement dit, ce que Christ a fait sur la croix, c'est mis sur notre compte comme si ce serait nous qui l'avait fait. Et ce que Christ a accompli en obéissance parfaite, c'est Christ qui l'a accompli. Et c'est un échange. Quel bargain! Des fois, quand on s'arrête à penser à ça, il a pris ce qu'il y avait de pire, le châtiment éternel, il a subi l'équivalent des douleurs qu'on aurait dû subir à notre place. Et en plus, il a accompli à la perfection. Alors, on n'a pas de misère à comprendre que quand on est vraiment sauvé, moi, s'il y a une doctrine que je ne suis pas capable de stander, c'est la perte du salut, parce que si tu enseignes ça, c'est parce que tu as compris c'est quoi le salut. Le salut, c'est quand Christ a fait ces choses-là, c'est irréversible, c'est parfait, et tu ne peux pas changer ça. Et si tu es vraiment sauvé, tu vas t'offrir, comme on dit, jusqu'à la fin. Donc, on a vu le souverain sacrificateur. Maintenant, il est le roi parfait. On va aller regarder quelques versets. Que c'est vraiment de nature spirituelle comme roi et non de nature temporelle ou militaire. Luc, chapitre 19, verset 38. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux, dans les lieux très hauts. » Jean, chapitre 18, verset 36. Jésus qui parle. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. » Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Un dernier verset pour le roi parfait, Apocalypse 19, verset 16. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, et Seigneur des Seigneurs, ça me fait penser, j'écoutais la fameuse Handel, ceux qui ont déjà écouté Handel, le Messie d'Handel, si vous pouvez aller sur Internet, tapez le Messie d'Handel, vous allez pouvoir écouter ça, ça dure une heure et demie, deux heures, c'est tellement beau. Parce que à la fin, quand on écoute ça, ça dit, il y a une chanteuse qui dit, King of Kings, Lord of Lords. C'est tellement... C'est des personnes qui prennent conscience du rôle du Christ. Il est le roi des rois. Quand on pense au roi de la terre, il y en a des rois, là, sur la terre. Il y en a de la terre, il y en a un. Mais c'est pas lui, le boss. Ni en Angleterre. Le Seigneur est le roi de ce roi et de tous les rois. Et Lord of Lords, c'est le Seigneur des Seigneurs. Il y a des Seigneurs, le Seigneur des Finances, des personnes qui sont en haut pouvoir dans quelque domaine que ce soit. Et il est leur maître, il les dirige, il les guide, il les restreint. Donc, on va regarder que le verset 12 nous parle aussi que toutes ces choses-là étaient scripturaire, Luc 2, 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Imaginez-vous, on est en train de parler du Sauveur, de ce qu'on vient de dire, là. Puis pour celui qui regardait ça, là, hein, il ne sauvera pas de grand-chose, un bébé, tu regardes ça, tu n'étais pas porté à voir. Mais ceux qui l'ont vu, il y en a qui l'ont vu. Et là, ils comprenaient qu'il se passait quelque chose d'une nature tellement extraordinaire qu'ils étaient vraiment émerveillés de ce qui se passait. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous connaissez dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Emmanuel veut dire. On va aller le voir dans Luc, dans Matthieu 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Très intéressant quand on regarde les passages de l'Ancien Testament, on voit ça qu'il y a de nouveau, puis là on voit que Dieu avec nous. C'était de prendre conscience que lors de la naissance du Christ, c'était Dieu avec le peuple d'Israël. C'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, bien souvent quand on regarde les fêtes, bien malheureusement, c'est le Père Noël qui a pris le dessus, c'est les réjouissances charnelles, c'est la boisson, et c'est bien d'autres choses de type péché qui se produit. Je serais curieux. Le Seigneur ne me donnera pas les statistiques, là. Mais je serais curieux de savoir, même dans les foyers qui se disent chrétiens, la journée du 25, lorsqu'on se rassemble, un rassemblement familial, un repas, combien ouvrent leurs Écritures, par exemple, sur Luc 2 ou d'autres passages qu'on parle de la naissance du Christ. Combien ils font? On dit qu'on est conscient que c'est pas une journée de réjouissance et de cadeaux, que c'est un moment où on fête la naissance de Christ. Et alors, on se réunit en famille, mais on n'en parle même pas. Chez les chrétiens. Ben, oui, ben, bien. Alors, autre chose. Donc, le verset 13 et 14, on change un peu de registre, on s'en va dans la naissance de Jésus qui est révéré. Révéré, ça veut dire que la révérence, quand on parle de se révérer Dieu. Et là, ça dit dans Luc 2, 13, « Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. L'Éternel a voulu que les anges du ciel participent à la joie de cet événement par leur louange et leur chant exclamatif et admiratif. Cette scène céleste a dû graver une impression indélébile dans l'esprit des bergers témoins de ces transports d'allégresse. Il faut s'arrêter, parce que je pense que ça vaut la peine de le faire. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Des fois, l'armée céleste, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le faire un lien avec d'autres passages des Écritures? Moi, j'aimerais qu'on fasse le lien avec le verset suivant, Daniel, chapitre 7, verset 10. Parce que ça nous donne une idée du nombre d'anges qui sont devant la présence de Dieu. Ici, on dit que l'armée céleste s'est mise à chanter, s'est mise à dire ces choses-là. Un fleuve, Daniel 7, 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient. Mille milliers, ça fait combien ça? Mille milliers, c'est un million. Et là, prenez le temps là. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 10 000 millions, ça fait combien ça?
Milliards.
Des milliards d'anges se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui se passait quand les anges louant Dieu et disant, parce qu'on parle de l'armée céleste, puis on vient de voir dans Daniel ce que ça pouvait être l'armée céleste, ça devait être quelque chose, mes amis. Parce que l'armée céleste qui disait gloire à Dieu, quand on dit que ça a laissé une marque indélébile dans l'esprit des bergers, j'imagine que c'est très... Et on voit aussi la sagesse là-dedans, dans Luc 2, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts. La louange se dirige d'abord et avant tout vers la source de cette ineffable bénédiction, bien sûr, Dieu lui-même. Les anges désirent et acclament la gloire de Dieu, la manifestation aux hommes du rayonnement de sa personne et l'éclat insoutenable de sa majesté et de toutes ses perfections infinies. Tous ses attributs sont reflétés dans ce événement prodigieux. On lit ces passages-là, je dois avouer, moi-même le premier, on lit ça souvent, on est pressé le matin, il faut lire nos Écritures, on arrive à Luc, on part, je lire, on médite pas. Il faut s'arrêter, il faut méditer. Comme quand on voit, on peut-tu savoir le nombre d'anges? Ben, souvent dans Daniel 7, 10, ça dit... Mille milliers le servaient et, c'est quoi? 10 000 millions. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ça veut dire que c'est 10 milliards? 10 milliards d'anges qui sont dans la présence de Dieu. Il y a quelque part, quand on prend conscience de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vient, les Écritures, l'approfondissement des Écritures et les bénédictions qui sont dans les Écritures, ça vient avec la méditation. Donc, le troisième point, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alors, qui reçoit, qui sont les récipiendaires de cette paix? Les hommes qui l'agréent, c'est qui? C'est les élus. La troisième point, on va aller vite là-dessus, parce que sinon, on va être obligé de donner un deuxième point. Mais je vais le faire rapidement. Versets 15 à 20, on voit, lorsque les anges ont quitté pour retourner au ciel, Les bergers se disent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Regardez qu'est-ce que ça produit un éveil spirituel. La foi et l'obéissance. On part, on y va. Dans la ville qui était prédite dans les Écritures où naîtrait Jésus, on y va, on va aller voir. Alors c'est la foi, c'est l'obéissance. Alors, la foi et l'obéissance est aussi le partage, la volonté de ne pas garder le trésor que tu viens de comprendre pour toi. La même chose s'applique à nous. Quand on comprend la naissance de Jésus, ce que ça nous a apporté, nous aussi, ça devrait nous emmener à la foi et à l'obéissance. Et ça devrait aussi nous emmener OK. Luc 2, 18, on va aller là-dessus. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Bien sûr, la diffusion de la bonne nouvelle, ça provoquait un étonnement et un grand émerveillement. Versets 19 et 20, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qu'on leur avait été, ce qui leur avait été annoncé. Alors, ce trésor est d'une telle valeur et d'une telle profondeur qu'une méditation attentive est nécessaire et bienfaisante. Un trésor se doit d'être gardé et d'être évalué à sa juste valeur. L'éternité ne suffira pas pour en découvrir toute la richesse et toute la profondeur. C'est peu dire, ça. L'éternité suffira pas. Alors, trois applications, je vois qu'on peut sortir du texte facilement. Première application, autrement dit, ce qu'on met en pratique dans notre vie, je suis à l'écoute de ça. Sachons apprécier et reconnaître que la naissance de Christ, ce qu'elle nous a apporté, la délivrance du péché et de l'enfer, la paix de l'âme, d'innombrables bénédictions sur cette terre et dans la vie éternelle dans le ciel. Si des personnes parmi nous n'ont pas encore reçu la grâce de la foi en Jésus-Christ et de la repentance pour le salut, nous vous supplions d'être réconciliés avec Dieu et d'implorer sa miséricorde. Deuxième application, soyons dans l'allégresse et chantons ses louanges. Célébrons ce glorieux événement. Faisons preuve de reconnaissance par une vie consacrée et sainte. Imitons les bergers, partageons et faisons connaître Christ autour de nous, hardiment et constamment. Troisième et dernier point, ne nous comportons pas comme des païens qui profitent de ce moment sacré pour s'adonner à des excès charnels du boire et du manger, des divertissements mondains remplis de péchés. Honorons notre Sauveur, notre Roi et notre Seigneur. Que l'Éternel soit loué pour son don ineffable, son Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Arrête. Je ne te dirai plus. Je fais juste stop, ça n'arrête pas. Il y a fin de la parole. Hey, pourquoi ça n'arrête pas? Regarde-le. Formez d'une autre façon. Comme ça. Putain, j'ai changé de batterie aujourd'hui.